Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission, la première émission de l'année, l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec la technique et l'accompagnement musical Flo Descailloux, qui vous a programmé, qui a fait son propre cocktail musical. Et puis aujourd'hui, nous fêtons le 4 janvier, et c'est une émission consacrée à Albert Camus, avec, j'ai la grande joie de recevoir Mohamed Aissaoui, pour le dictionnaire amoureux d'Albert Camus. Ça vient de paraître aux éditions Plomb. C'est un livre qui est écrit avec la complicité de Catherine Camus. Mohamed Aissaoui, c'est vrai, avec la complicité, on est tout de suite, j'allais dire, dans la note de votre livre, de ce dictionnaire amoureux. Il y a une note intime, j'ai trouvé, dans ce dictionnaire. Il y a presque à deux voix. Vous voyez, nous sommes à la radio.
Oui, c'est vrai.
Et il y a quelque chose d'intime dans ce dictionnaire. Voilà, j'ai trouvé que c'est... Alors, on est à la fois dans l'univers d'Albert Camus, mais dans son intimité à lui. Est-ce que c'était un peu le chemin que vous vouliez emprunter ?
C'est celui-là que j'avais envie d'emprunter, parce que je ne m'imaginais pas écrire un dictionnaire amoureux d'Albert Camus sans sa fille Catherine, que j'ai rencontrée à 24 ans et avec laquelle j'ai noué des contacts et un lien très fort, fraternel. J'ai l'impression d'être orphelin avec elle, et elle m'a fait découvrir beaucoup de choses de l'écrivain Camus, parce que je considère que Catherine Camus est l'une des meilleures spécialistes, voire la meilleure spécialiste d'Albert Camus. Elle connaît tout, sans compter les correspondances qu'elle a fait publier, ce qu'elle a par ailleurs. Elle a contribué quand même, c'est elle. On lui avait reproché, puis maintenant tout le monde lui dit merci, la publication posthume du premier homme, le manuscrit qu'on avait retrouvé dans la voiture accidentée. Je rappelle, un 4 janvier, Camus est mort le 4 janvier 1960, donc c'est un jour un peu particulier aujourd'hui, et donc elle m'a fait connaître le Camus écrivain, et petit à petit, à force de nos rencontres, de nos rendez-vous, elle m'a donné accès à Camus l'homme, le père, celui qui, parce qu'il apparaît comme un écrivain solaire, mais il a connu des moments de très forte tristesse. Mmh. Elle m'a raconté ces moments-là. Elle m'a raconté aussi ce Camus blagueur qui chantait à tue-tête, qui se faisait disputer par sa femme parce qu'elle en avait marre de l'entendre chanter à tue-tête dans la voiture, et qui a inventé des chansons. Il y a un Camus chanteur. Donc oui, je pensais que j'ai beaucoup lu sur Camus. J'ai beaucoup lu Camus, évidemment. C'est une compagnie permanente depuis mon plus jeune âge. Et je voulais presque de manière très ambitieuse montrer un Camus un peu plus intime, et un Camus aussi, c'est un peu l'objectif de ces dictionnaires amoureux, le Camus que moi j'aime, que moi j'ai envie de présenter. Si quelqu'un d'autre écrit son dictionnaire amoureux d'Albert Camus, c'est sûr qu'il l'aurait écrit totalement différemment, mais moi c'est celui-là que je voulais faire.
Ben c'est réussi, Mohamed, c'est oui, parce que c'est vrai. Voilà, moi, ce que j'ai bien aimé, parce que votre livre commence, bien sûr il y a une introduction, et vous parlez un peu de la solitude de l'écrivain qui parle à la solitude du lecteur, et c'est en fait là que tout commence. Ouais. Vous dites, j'ai longtemps pensé que j'étais le seul être au monde à connaître Albert Camus, à le comprendre, et qu'il n'écrivait que pour moi. C'est mon père, mon frère, mon professeur, mon ami. Après, par la suite, vous écrivez, Camus avait pris sa plume pour me dire, tu vois, tu n'es pas seul, ces livres chez moi sont rangés ou posés un peu partout. Donc c'est...
Comme s'il me protégeait.
Oui. Et c'est votre, à la fois le début de votre histoire.
Oui, ouais.
Et aussi le début de son histoire, parce que Camus, ça a démarré comme ça.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, ce qui est étonnant, j'allais dire presque magique, évidemment que j'avais envie de faire un dictionnaire amoureux de Camus pour parler de Camus. Et puis, petit à petit, alors je dois dire que c'était beaucoup de travail, c'est normal, hein, c'était trois années de travail intense, mais c'était aussi beaucoup de joie, énormément de joie, parce que j'étais encore de manière plus intense en la compagnie de Camus. Donc, qui était dans mon inconscient, que j'ignorais totalement, et qui m'a sauté aux yeux une fois le livre publié, c'était qu'il était presque évident que je voulais parler du Camus dont je me sens le plus proche et celui dont, je dis de manière la plus humble possible, je crois le comprendre. Je crois comprendre l'enfant pauvre qu'il était dans le total dénuement, l'enfant pauvre qui vivait avec une mère analphabète, l'enfant qui, et même l'adulte par la suite, qui publie des livres et qui sait que sa mère ne pourra jamais les lire, tout ça a fait qu'en fait, il m'a semblé que c'était évident, une fois publié, qu'il fallait que ça soit moi qui, un, rende hommage à mon Camus, et dans une sorte de gratitude de ce qu'il m'a apporté. Tout ça était véritablement important pour moi, mais c'était presque inconscient aussi.
C'est important pour vous de régler sa dette de lecture.
Oui, 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 mais c'est plus qu'une dette de lecture. C'est
un pacte de lecture, on pourrait dire.
Oui. Et c'est vrai qu'il y a à voir avec la lecture énormément, mais ça a à voir en plus avec la vie. Quand j'écris, c'est vraiment pas une formule pour faire joli. Quand j'ai longtemps cru que j'étais le seul à le comprendre, c'est un peu le lien... D'ailleurs, que tout lecteur amoureux d'un écrivain établit avec son écrivain, il ne peut pas accepter que d'autres partagent ce lien si intime, si fort avec d'autres. Et c'est la magie de la littérature, c'est que ce sentiment-là est démultiplié par des milliers de fois, voire des millions de fois pour les grands auteurs. J'aime Maupassant aussi, et quand je le lis, j'ai l'impression qu'il ne me parle qu'à moi. Donc, ce livre, c'est aussi effectivement le livre de la gratitude, c'est-à-dire vraiment pour dire merci à ce que Camus m'a apporté et m'apporte encore, pour dire aussi merci à ceux qui ont pu contribuer à la naissance d'un grand écrivain. Je pense aux professeurs qui l'ont soutenu, aidé, porté. Je pense à d'autres à qui je rends hommage dans le dictionnaire amoureux. Tout ça, c'est un ensemble, oui, de bienfaits, de gratitude, de reconnaissance de dette, de lecture et de vie.
Et de vie, c'est ce qui est important, justement, je pense aux jeunes générations.
Oui.
Par exemple... On dit beaucoup la lecture à voix haute. Non, mais la lecture, c'est aussi une histoire de silence, de solitude et de mal-être aussi au départ, parce que on n'est pas toujours bien dans sa peau quand on est adolescent. Et là, quelqu'un vous parle à l'oreille.
Oui.
Et c'est ça la magie de la littérature.
Complètement. C'est ce que j'ai ressenti. J'avais en plus moi cette singularité. Comme je suis né en Algérie, j'ai vécu mes 9 premières années. En Algérie, dans un village très pauvre, dans une presque ce que décrit Camus, et je découvre la langue française. Donc, entre 10 et 12 ans, je commence à comprendre la langue, mais vraiment comme on peut le comprendre avec 3 années de pratique. Mais très vite, j'ai eu envie d'aller plus loin. J'ai lu de la poésie sans forcément comprendre, mais en étant subjugué. Et c'est l'âge vers 12-13 ans, l'âge auquel j'ai lu L'étranger. Et là, j'ai pris une claque, mais je n'avais rien compris. Je cherchais l'étranger dans les pages du roman. Et évidemment, beaucoup de choses m'avaient échappé. Je l'ai lu trop tôt. Mais en même temps, je m'étais donné rendez-vous en me disant un jour, je le comprendrai, ce que Camus a voulu dire, etc.
Alors, bon, ce dictionnaire amoureux, il y a plusieurs entrées que vous avez choisies. Vous citez même les mots préférés d'Albert Camus, qui sont, vous allez les dire tout à l'heure. Et puis, il y a une nouvelle de vous. Il y a une nouvelle de vous, Mohamed Asseioui. Et parce que votre nouvelle rend hommage à quelque part, moi je l'ai vu comme ça, aussi au côté nouvelliste d'Albert Camus, l'art du bref.
Oui.
Ben, c'est entre l'entretemps.
Exactement. Camus, bien sûr, il est connu. Il a les grands textes qui sont chaque fois qu'il y a un sondage, qui sont dans les premiers. L'étranger, la peste et le premier homme figurent, par exemple, dans un sondage que j'avais fait pour le Figaro littéraire, le journal dans lequel je travaille. Il avait 3 titres dans les 20 titres préférés des Français. Donc il est connu, ses essais aussi, peut-être moins, mais ils sont largement connus. Son théâtre, Caligula, L'état de siège, Le malentendu sont joués tout le temps dans le monde entier. Mais peut-être que ces nouvelles sont-elles un peu moins connues. Et de toute façon, je pense qu'il faut les relire parce que c'est là, je crois, où il est le plus lui-même. C'est un style fait de lyrisme, d'ancrage à la nature, évidemment, le soleil, la mer, les arbres, les fleurs, les parfums, etc. Il en parle de manière mais magistrale, c'est une plume. Peut-être qu'on a oublié, face ou du fait de l'écrivain engagé, on a oublié que c'est une grande plume. Mmh. Donc, je me suis permis d'écrire cette nouvelle aussi, mais...
Vous allez à la rencontre, en quelque sorte, du personnage de Camus.
Oui, c'était pour... je m'inventais un Camus que je croisais en 2022 à Lourmarin devant un terrain de foot parce qu'il adorait le football, il y était toujours. Et puis une balade avec lui, voilà, une balade un peu, une rêverie en fait. Et c'était ma manière de, comme si je le rencontrais aujourd'hui. Mais avec ces textes, de toute façon, on le rencontre aujourd'hui. Et ce qui m'a fait plaisir en écrivant cette nouvelle, c'est que Camus m'a dit « mais je suis jalouse de ce que tu as fait parce que j'ai l'impression que tu as rencontré papa », m'a-t-elle dit.
Le mot « rencontre » est très important. Ouais. Et alors, vous avez quand même une petite manie, Mohamed
Hassaoui. Oui, quelques-unes.
Vous dites « dans ma bibliothèque, j'ai plusieurs éditions du même roman et plusieurs exemplaires de la même édition ». Donc vous êtes quand même bibliophile autour de Camus.
Je défie... Alors... Quiconque aime la littérature de n'avoir pas cette manie, parce que quand on aime un auteur, on ne peut pas se contenter d'un exemplaire. D'abord, et je le fais, mais réellement, c'est pas dit comme ça. Quand il y a des gens qui viennent chez moi, je leur offre, ils voient les livres et tout. Prends celui-là, Noce ou L'exil et le royaume, ou voilà. Et ne t'inquiète pas, j'ai d'autres exemplaires, etc. Alors il y en a que je garde, les éditions originales. Les Pléiades, l'album Camus qui est très rare et qui se vend d'ailleurs trop cher, je trouve, sur les sites de vente, etc. Mais je crois pas être si maniaque que ça. Je veux dire, si vous aimez un auteur, c'est pas possible que vous contentiez d'un seul exemplaire.
Et qu'est-ce que ça vous apporte? C'est-à-dire, vous êtes dans le parfum d'une époque, dans l'impression. C'est important pour vous d'avoir l'édition que peut-être Camus a eu entre ses mains, que ses contemporains ont eu, de voir l'évolution d'une édition, l'évolution de la présentation d'un livre. C'est le vivant du livre, ça aussi?
C'est le vivant du livre, parfaitement le vivant du livre, mais c'est un vivant qui n'est pas figé. C'est-à-dire que je parlerai pas d'époque, parce que je serais incapable de vous dire que les années 50, c'était comme ça parce que Camus a publié La Peste, etc. Il y a le papier, il y a l'odeur aussi, j'aime beaucoup. Il y a cette sensation physique qu'à un moment donné, ça a été traversé par Camus ou par celui à qui il a dédié le livre. J'ai vu des lettres, vous qui êtes spécialisé sur la calligraphie, je veux dire, j'ai La Peste, le manuscrit facsimilé, hein, il est à la BNF le manuscrit. et si vous voulez, il y a quelque chose de magique à aller encore plus loin dans l'intime de l'écrivain.
Dans le suivi du geste de l'écriture, de la lecture. Camus est souvent attaqué, même post-mortem, j'ai remarqué.
Oui, bien sûr.
Il a souvent été discrédité.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas le fait, mais lui, d'être à la fois romancier et philosophe? Pourtant, Sartre n'a pas eu le même discrédit, si j'ose dire.
Non, mais Il y a plusieurs raisons instinctivement. Il y a des attaques intellectuelles, des désaccords idéologiques. Et quand vous dites qu'il a été attaqué post-mortem, oui, 10 ans après sa mort, il y a le fameux pamphlet de Jean-Jacques Brochet qui s'appelle Camus, Albert Camus, philosophe pour classe terminale. D'ailleurs, comme si son côté accessible, en fait, c'est ça qu'on lui a reproché. Raphaël Antoman dit que si Sartre a des commentateurs, Camus a des lecteurs. Parce qu'il est accessible. Et on sait tous, nous, journalistes et auteurs, comme vous, que la chose la plus difficile à arriver, c'est la simplicité. Cette impression de fluidité, de simplicité. Et pour ça, il faut énormément de travail. Et Camus, on le voit, et c'est fantastique de lire ses carnets. Il y a 3 volumes de ses carnets qui sont en fait son œuvre en cours de création. C'est-à-dire qu'il teste des titres, il imagine des personnages, etc. Et ça, donc ce Camus-là est attaqué effectivement parce que il est plus clair, plus accessible, il a plus de succès aussi. Le prix Nobel est arrivé à l'âge de 42 ans, ce qui était c'est le plus jeune avec Kipling.
Oui.
Voilà. Et peut-être ajouter que c'était une volonté clairement exprimée par Camus. Il a dit « Pense par image, si tu veux être philosophe, écris des romans. »
Il l'a dit à 22 ans.
22 ans, il y pensait déjà à 22 ans.
C'est tout fou. Est clair dans ça. Vous dites la deuxième, développer un mythe en s'appuyant sur un monde concret bien réel.
Oui.
C'était le projet de la peste.
Exactement.
Qui puisait dans le modèle de Moby Dick.
Mais oui, Moby Dick. Comme ce qui est incroyable, parce que j'ai évidemment fait des recherches, l'étranger s'inspire d'un polar. Le facteur sonne toujours deux fois.
Ah oui, très connu à l'époque.
Ben oui, mais c'est incroyable, incroyable. Il y a des ressemblances dans la sécheresse, dans le fait de pas exprimer des sentiments, mais juste de donner quelques faits qui expriment le sentiment et non pas l'inverse. Ça c'est beaucoup plus bateau, beaucoup même parfois mauvais quand on veut vraiment forcer le lecteur à penser. Non, il donne juste Meursault dans l'étranger. C'est une apparence de sécheresse extraordinaire. Et en fait, on sent tout l'intérieur.
En fait, c'est une efficacité narrative, si on peut dire.
Oui, 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 c'est très travaillé.
Très travaillé. Alors, comment il est travaillé, d'ailleurs debout, alors j'ai un autre petit livre qui est ancien, là, vous voyez.
Oui.
Debout parce que j'ai besoin de me dépenser, méthode, des notes, des bouts de papier, la rêverie vague, et tout cela des années durant. Un jour vient l'idée, la conception qui coagule ces parcelles éparses.
Oui.
Alors commence un long et pénible travail de mise en ordre. Il était très ordonné, Camus.
Hyper ordonné. C'est pour ça que je parle de travail titanesque pour arriver à la simplicité et à cette fluidité dans les textes, La Peste, L'Étranger, et même dans ses pièces de théâtre. Dans certaines éditions, il y a plusieurs versions. Le travail pour passer d'une pièce de théâtre qui, si jamais elle était jouée telle qu'elle avait été écrite, aurait duré 4 heures, il faut enlever 1 heure, voire 2 heures. C'est un travail extraordinaire. Peut-être que je rajouterai sur la raison tout à l'heure qu'on a évoqué sur ces attaques qui reviennent assez régulièrement. Et ça me plaît. Autant j'admets les combats intellectuels, c'est même signe d'une bonne société où chacun peut s'exprimer, etc. Mais ce que j'ai pas du tout aimé, c'est le mépris social qu'il a subi de la part d'intellectuels qui auraient dû applaudir ce destin d'un gamin absolument pauvre qui devient l'un des plus grands écrivains français.
Il y a une sorte il y a l'idée de méritocratie quand même qui est attaquée à travers Camus.
Mais c'est un enfant, Camus est un enfant de l'école républicaine. Sans son instituteur à qui il a dédié le prix Nobel de littérature, Louis Germain, sans son professeur de philosophie, qui est devenu son ami après, Jean Grenier, qui n'a pas de lien de famille avec Roger Grenier, un autre de ses amis, sans ces deux-là, sans, je cite un autre personnage, qui lui a donné accès à sa bibliothèque, Camus ne serait pas devenu ce qu'il a été. Et le mépris social est un peu quelque chose de... Vraiment, je trouve pas le mot, mais c'est quelque chose de dégoûtant de la part d'intellectuels qui étaient dans la bourgeoisie, qui ont fait les meilleures écoles. Qui ont fait les grandes écoles françaises et qui se gaussaient sur la façon dont Camus s'habillait, par exemple, un peu comme s'il était un parvenu, un voyou qui s'habillait en costard. Il y a eu des remarques comme ça, quand même. Ça, pour moi, ça disqualifie ces intellectuels qui, encore une fois, ce sont eux qui auraient dû mais saluer l'œuvre et même l'homme Camus. C'est quand même un gamin pauvre qui n'a pas connu son père, qui est mort en 14 des suites de ses blessures, et qui s'en est sorti et qui a réussi
et qui a bien joué
et qui a bien joué
sa partie
ouais exactement donc ça c'est pour moi c'est incompréhensible et c'est ça les disqualifie.
Il a pris la balle au bon, je trouve, il a bien joué. Voilà ce que dit Bernard Franck, que personne...
Oui,
voilà.
Ouais.
Alors, c'est le style d'un timide, d'un homme du peuple, qui, les gants à la main, le chapeau encore sur la tête, entre pour la première fois dans un salon. Les autres invités se détournent, ils savent à qui ils ont affaire. Quand Camus pense, il met son beau style, les résultats ne sont pas très bons. Mais quand on lit...
C'est dégueulasse.
Ouais.
C'est dégueulasse.
Ouais.
Je veux dire, j'aime bien. Hein, c'est un grand écrivain, mais là, de parler comme ça, de parler d'habits, de parler d'apparence, c'est un intellectuel là qui parle comme
de
ça. Je n'ose pas le dire.
C'est ça le pire.
Dans un grand journal aussi. Ouais. Il était à l'Obs, effectivement.
Ouais.
L'Obs qui était dirigé par l'un des meilleurs amis de Camus,
Jean Daniel,
qui parle d'apparence. Je veux dire, on sait à qui on a affaire.
C'est un mépris de classe.
C'est un mépris. On sait à qui on a affaire. C'est-à-dire qu'on discute même pas. On voit quelqu'un habillé, on sait à qui on a affaire. Mais si c'est pas,
Camus a été jugé sur son apparence.
Ben là, c'est clairement dit. C'est des gens qui sont censés, encore une fois, applaudir le fait que des gens qui sont issus de classes très modestes puissent accéder à l'instruction, à la connaissance, avoir un métier meilleur que leurs parents. Voilà. Et c'est ça que Bernard Franck critique, on sait à qui on a affaire. Ouais. C'est-à-dire, avec son beau style, j'ai mis ça parce que je trouve qu'on n'est plus là dans le combat intellectuel.
Non, puis surtout que je pense que Camus est beaucoup plus lu aujourd'hui que Bernard Franck ne l'est.
Oui,
et je ne parlerai
pas
de Jean-Jacques Brochier,
oui.
qui est connu maintenant pour avoir créé le magazine littéraire avec
ses
couvertures de Moretti. Ben franchement, Camus pour classe de terminale, et ben c'est très bien d'être lu dans
mais,
les classes
mais
de terminale.
Mais exactement, j'en ai parlé avec Catherine. Elle me dit, mais elle est incroyable, hein, Catherine Camus. Elle me dit, mais en quoi est-ce une insulte ?
Ben non. c'est pas une insulte. Alors pour le cas, on oppose souvent Sartre et Camus, et moi je les oppose pas, je les trouve très complémentaires. Ils ont été
amis. Partage ça. Merci de le dire, voilà, parce que ça y est, maintenant c'est typiquement, ça revient souvent, hein, je suis bien placé pour le voir et le savoir, c'est êtes-vous Camus, êtes-vous Sartre?
Mais c'est ça.
Je mets dans l'entrée que je dis très polémique Sartre-Camus, parce que tout le monde l'attendait, donc je me suis dit, bon, je vais pas esquiver ça. Je dis, d'abord, c'est c'est une grande histoire d'amitié, une amitié forte, je veux dire, à la fois intellectuelle et humaine, auquel s'est associée d'ailleurs Simone de Beauvoir. Une amitié telle que elle a failli aboutir à un grand projet qui était la mise en scène par Camus de huis clos, et en plus Camus devait jouer l'un des rôles principaux, les trois garçons. C'est d'abord une grande histoire d'amitié. Ensuite, il y a eu la rupture effectivement avec L'Homme révolté, où là, clairement, Camus s'est attaqué à Sartre et aux intellectuels. Il a dit « J'en ai marre de recevoir des leçons de ces intellectuels qui n'ont fait que d'asseoir leur fauteuil du côté de l'histoire, à chaque fois. » Rupture, mais là, qui était intellectuelle, qui peut se comprendre. Et effectivement, après coup, on voit lequel des deux s'est fourvoyé, hein, notamment dans le communisme totalitaire. Et Camus, s'il y a un fil directeur à la fois à son attitude, à son œuvre, c'était de lutter contre toutes les idéologies qui étaient indifférentes à l'homme et à la vie. Ça, c'était notamment cette lutte contre le nihilisme. Que la révolte, c'est d'abord un consentement, c'est pas une haine. Donc, sur le côté combat intellectuel, il n'y a rien à dire. Et je dois dire que, à la mort de Camus, donc en 1964, Sartre a écrit une lettre très émouvante où il rappelait l'amitié qui le liait et la tristesse qui l'a submergé quand il a appris que Camus est mort dans un accident de voiture.
Je dirais enfin, tous les deux sont, on va faire une pause musicale, mais tous les deux sont des, à la fois des romanciers et des philosophes.
Oui, et des dramaturges.
Oui, oui. Et Sartre, c'est l'existentialisme, et Camus, c'est l'absurde et un peu d'ironie du sort, comme on dira. On va faire une pause musicale et nous poursuivons notre conversation. Mohamed Hassani.
Alors, comme première pause musicale, nous allons partir en Algérie avec une grande dame du rail, la reine du rail, Cheikha Remiti, qui habitait dans le 18e, à la fin de sa vie, dans le nord du 18e, cité Charles Hermite. Saïda.
وصيت العود يا ميان همشي وحدا يا الخيمة المريونة حبيبي يا ندير مريرة مجبل وايا تحذر حدا الخيمة المريونة يا Thank you.
êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Nous parlons du dictionnaire amoureux d'Albert Camus, de Mohamed Aissaoui, qui vient de paraître aux éditions Plomb. Et c'est un livre, un dictionnaire amoureux, qui a été écrit, on va dire, avec la complicité de Catherine Camus et en pensée, surtout en pensée avec l'univers intime d'Albert Camus. Mohamed Aissaoui, on parlait de Camus, de Sartre. Je disais tout à l'heure qu'ils sont tous les deux des vrais philosophes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous avez des philosophes qui sont plutôt des commentateurs de textes,
oui, oui, oui,
qui ne créent pas un système de pensée. Et là, quand même, Camus et Sartre, plus il y en a un troisième qui est quand même Malraux, mais qui est peut-être un peu moins philosophe et plus historien de l'art, si on veut. Voilà. Enfin, il y a quand même. Et l'aspect romanesque et l'aspect philosophique.
En fait,
et la pensée.
Quand on disait tout à l'heure, on les a surtout ces derniers temps, on les met face à face. D'ailleurs, tout de suite, le mot polémique est associé à leurs deux noms. Mais ils avaient des œuvres jumelles. Quand je pense aux Les Justes, la pièce de théâtre, et Les Mains Sales, c'est une même sorte de pièce de théâtre qui est sur les mêmes fondements quand même. Et peut-être que ce qui les associe le plus, je crois, et ça m'a beaucoup plu moi de constater ça parce que j'aime Sartre aussi, c'est qu'ils tous les deux sont des romanciers, philosophes et dramaturges. C'est-à-dire que sans doute que les romans et le théâtre sont une illustration concrète de leur philosophie. L'existentialisme pour Sartre, l'absurdité, puis ensuite la révolte pour Camus. Et mon grand regret, c'est évidemment que Camus ne soit pas resté vivant pour attaquer le troisième cycle qu'il avait anticipé, prévu, c'est l'amour. Il a commencé avec Le Premier Homme, mais malheureusement, c'était une œuvre inachevée. Donc, Sartre-Camus, c'est ces mêmes matériaux, le théâtre, la littérature, pour exprimer une philosophie. Et ils le font tous les deux. Je pense que ce sont parmi les meilleurs, en tout cas parmi les contemporains. Je suis incapable de juger les plus anciens philosophes. Et ça, c'est presque une forme d'innovation. C'est-à-dire,
je trouve, parce que actuellement, je ne vais pas citer des noms, mais vous avez des philosophes commentateurs de textes, mais ils ne sont pas créateurs.
Le pire, c'est que c'est même pas des commentateurs de textes, c'est des commentateurs d'actu.
Oui.
Parfois.
Oui, voilà.
C'est-à-dire, à la rigueur, un texte, c'est bien qu'il commente, s'il nous explique quelle est sa force, sa puissance, son intérêt, d'où il provient, etc. Pourquoi pas ? Comme si on pouvait aussi, on peut commenter un ouvrage. Mais c'est des commentateurs de commentaires.
Oui, c'est ça, de scolies. Voilà, scolies, comme autrefois.
Ben oui, et c'est des. En fin de compte, vraiment, je ne vois pas de différence avec des bavardages. Je veux dire, d'ailleurs, ils sont souvent dans les émissions de bavardage. Et quel est le but ? C'est de faire du buzz. C'est-à-dire qu'en un slogan, en une phrase bien placée, bien dite, etc., on fait le buzz et on n'entend que ça. Et en cela, ils ne se distinguent pas... d'autres personnes qui ne sont pas des philosophes.
Ils sont plutôt des animateurs, on va dire, de la philosophie. Ouais. Mais c'est vrai que Camus, Sartre, il y a la notion d'action, l'acte.
D'acte.
Et d'ailleurs, Camus disait, lui, il n'aimait pas le mot engagement, ce que vous dites. J'aimais être embarqué.
Oui, embarqué, bah oui. Je trouve que c'est une jolie expression. Parce que l'engagement est un peu, d'abord le côté héroïque, etc. Mais quand on choisit d'être embarqué, c'est bon. Il y a la notion de risque, bien sûr, hein, mais il y a la notion de concret, c'est-à-dire d'aller les mains dans le cambouis. Je veux dire, quand même, Camus, n'oublions pas, c'est quelqu'un qui a vécu durant toute sa vie avec la tuberculose. Donc oui, avec, oui, avec la mort en épée de Damoclès de manière permanente.
Il crachait du sang.
Oui, voilà, il y avait des crises où on pensait qu'il pouvait y laisser sa vie. D'ailleurs, même enfant, adolescent, etc. Et cet homme-là, en pleine occupation, il va diriger l'un des plus beaux titres de la presse quotidienne, Combat. Je veux dire, pendant la guerre, il a dirigé, et il était relativement jeune, Combat. C'est-à-dire que c'était avec des éditoriaux quotidiens, avec une volonté d'informer, une volonté d'engagement, même je sais que s'il n'aime pas le mot engagement, de qu'il existe une vie intellectuelle en pleine en occupation, et c'est lui qui dirigeait ce journal. Donc là, il était réellement embarqué.
Il a été dès le premier. Il aimait bien dire aussi être appelé. Donc il répondait à l'appel, si on peut dire.
Oui, bien sûr.
Et son premier reportage, vous nous disiez hors antenne, c'est sur la misère.
Il avait une vingtaine d'années.
Voilà, il faut que vous racontiez ça pour nos auditeurs.
Oui,
parce que
bien
c'est...
sûr. Alors là, il était à Alger, dans un petit quotidien, Alger Républicain, à l'époque. Et jeune journaliste, il demande à aller en Kabylie, et c'est assez loin, hein, Alger, la Kabylie quand même, et il y reste une quinzaine de jours, et il fait une série de reportages qui sont pour moi dignes des meilleurs reportages d'investigation, ou des reportages, peut-être pour situer plus clairement, à la manière de ce que fait une autre prix Nobel, Svetlana Alexievitch, c'est-à-dire que rendre voix et rendre compte de ce qu'on voit. Et là, en l'occurrence, c'était la misère de la Kabylie. Il voyait les enfants qui étaient laissés à l'abandon, des gens qui ne mangeaient une fois tous les deux jours, qui allaient dans les déchets, manger des épluchures de pommes de terre, etc. Il a fait une série de reportages qui rassemblaient, fait une quarantaine de pages à peu près. Et pour moi, c'était incroyable qu'un... J'avais pas un gamin, mais un jeune de 22, 23 ans... fasse ça. Et je tiens ces reportages-là parmi les meilleurs reportages d'investigation, de témoignages. C'était très fort. Déjà, à cet âge-là, faire ça, franchement, c'est chapeau bas.
Et puis, est-ce qu'il a eu des relations avec Kessel, forcément? Oui.
Ben justement, moi, j'adore Kessel et j'ai pas trouvé de lien correspondant.
Parce que là, vous m'en parlez, je pense à Kessel.
Ben
voyez,
oui,
voilà.
Bien sûr, Kessel, qu'est-ce qu'il faisait? Kessel, j'ai travaillé sur ce qu'il a pu faire, mais sur des articles ou des dossiers. C'était un reportage qu'il transformait en roman.
Oui, voilà. Alors, il faisait de la récup.
Hein. Ah oui, mais c'est de la belle récup. Hein. J'aimerais bien.
Kessel,
non, mais j'aimerais bien faire la récup, écrire ce qu'il a pu écrire. Mais tout a démarré chaque fois. Chaque fois, ça a démarré par des reportages et donc qui donnait naissance à des romans. Et peut-être que là, on n'est pas loin. Ce sont d'ailleurs deux prototypes de journalistes littéraires, hein, Kessel et
Camus.
C'est
le journalisme.
C'est le journalisme.
Et c'est l'action.
Et j'aime beaucoup Kessel dans le sens où il dit, parce qu'évidemment on fait un distinguo entre journaliste et écrivain, c'est vrai, mais il dit, Kessel dit, mais c'est la même plume. Donc, lui puiser son matériau dans ses reportages. Et après, ça donnait ça a donné juste des romans qui sont magistraux, tout simplement.
Voilà. Mais c'est un peu la même, Alors, la grande
L'armée de l'ombre, par exemple, c'est né de ce qu'il a observé. Les mains, j'oublie toujours le titre, un titre avec les mains, le lion, tout ça.
Les cavaliers.
Et il a fait les cavaliers. Et c'est un reportage chez les alcooliques anonymes. Mais c'est génial, ça. C'est chez Folio maintenant.
Voilà, voyez, c'est l'école du journalisme pour Camus a été très importante. Oui. Il a rencontré des gens aussi comme Pascal Pien, qui a été très important. Et vous dites, vous, la grande leçon de Camus, Camus m'a dit en substance, ce qui m'a bouleversée, c'est que l'on ne peut pas lutter contre la justice en commettant d'autres injustices. Il y a toujours cette notion d'équilibre chez Camus.
Oui, toujours.
De dosage, de bon dosage. Et puis après, vous montre dans votre dictionnaire amoureux, Mohamed Essaoui, c'est-à-dire c'est... On voit vraiment la case départ et la case, enfin la première, la case d'arrivée.
Oui.
Et alors l'oncle Boucher, par exemple.
Moi, c'est génial.
Moi, je trouve ça, écoutez, très émouvant. Bon, il avait un oncle qui s'appelait, je crois, Gustave
Acco. Exactement. A-C-A-A-U-L-T. Voilà.
Et vous dites, Roger Grenier, à l'époque, dans l'un de ses livres, il dit que Gustave Acco était un drôle de boucher, un artisan original, un boucher voltairien et même anarchiste.
Oui, oui.
Et qui lui apprend... Bah, qui lui sert, parce qu'on sent que Camus, il se cherche des pères, forcément. Son père, il est orphelin de père, il se cherche un père, et là, cet oncle.
Oui, il se cherche un père à plusieurs titres, j'allais dire. Le père qu'il n'a pas eu, il est vraiment entouré de femmes, sa mère, sa grand-mère, très autoritaire. Évidemment, il rencontre ses professeurs, son instituteur. Mais en Gustave Acco, il est très jeune, il doit avoir 16-17 ans maximum. On le met chez l'oncle Boucher.
Oui, en
parce
plus.
Parce qu'il va lui donner de la viande rouge, il va le reconstituer un peu.
Il va le requinquer,
était un peu un malade, etc. Et chez cet homme-là, qui est un fou de littérature, il y a une bibliothèque où Camus tombe dans l'ivresse à travers tout ce qu'il peut accéder, tout ce à quoi il peut accéder, et notamment toute la littérature classique et contemporaine de l'époque, comme Genet, etc. Et là, il va s'en donner à cœur joie. Et véritablement, bien sûr que Louis Germain, son instituteur, et Jean Grenier, son prof de philo, ont joué un rôle primordial. Mais ce qu'a permis l'oncle Boucher, Gustave Acco, c'est la naissance d'une vocation. Camus le dit lui-même. Il, en lisant des livres, d'abord, il découvre que la littérature, c'est aussi pouvoir parler de sa pauvreté. Il en ignorait. Il pensait que la pauvreté n'avait pas accès à la littérature. Il le dit.
Voilà, il le dit. Vous dites, Roger Grenier explique que chez les Acco, le jeune Camus découvre une différence essentielle avec le monde des pauvres. Mmh. Dans sa famille, les objets n'ont pas de nom.
Non, non, non.
Là, tout est dit, quoi.
Mais tout est dit. Il y a un côté où on nomme les choses et de l'autre, oui, où on nomme pas. Et comme ça n'existait pas, comme ça n'avait pas de valeur, il découvre un autre monde, en fait. Et à travers cette bibliothèque, il découvre les grands écrivains. Il découvre que peut-être que sa vocation, j'en suis même intimement persuadé, sa vocation d'écrire, je dis même pas d'écrivain, d'écrire est née là. Après, ça a été renforcé avec la rencontre notamment de Jean Grenier, son professeur de philosophie, parce qu'à un moment donné, Jean Grenier lui fait des remarques sur son travail, ce qui rend ses dissertations et tout ça, et il le pousse à continuer, et un jour, Camus, d'une manière mais extrêmement timide, il demande... à Jean Grenier s'il pense qu'un jour il pourra écrire, c'est-à-dire vivre de son écriture. Déjà s'interroger, c'est déjà montrer un désir. Après, il va découvrir qu'il peut écrire, il peut vivre de l'écriture, notamment le journalisme déjà est une forme de manière de vivre par l'écriture.
Oui.
Et puis, de pouvoir parler aussi.
De pouvoir parler, de s'exprimer. Il y a une notion très importante pour Camus, Mohamed Essaoui, c'est la notion d'autonomie. Autonomie de sa pensée, autonomie financière.
Oui.
Quand il était étudiant, dites-vous, un étudiant pauvre, il avait sollicité un prêt d'honneur pour poursuivre ses études à l'université d'Alger. Mmh. Il avait emprunté 4500 francs. Catherine se souvient que sa mère Francine lui avait raconté qu'en 1950, après le succès de la peste, Camus avait renvoyé un chèque de 60 000 francs à l'université.
Ouais, ouais, ouais.
Donc donc on paie ses dettes, il y a une forme de dignité.
Il y a une forme de grande dignité, de reconnaissance, hein.
Oui.
Peut-être sans vouloir, sans utiliser de grands mots. Tout ça est fait de manière très discrète, c'est-à-dire que c'est pas affiché, c'est après coup qu'on le sait.
D'autonomie, par exemple pour la pensée aussi, vous dites pour lui Camus n'était pas de ceux nombreux qui montent sur les cercueils pour parler plus haut.
Ben oui, mais c'est pas facile, je pense. Ça a été courageux dans le sens où l'autonomie de la pensée, c'est une forme de solitude. D'ailleurs,
il le dit.
D'ailleurs, le discours de Stockholm quand il a eu le prix Nobel de littérature. Il dit deux choses importantes. Peut-être que la chose la point importante, c'est que un écrivain choisit forcément la solitude. Mmh. Mais l'autre chose la plus importante, et ça m'a marqué dans son discours de Stockholm, il dit que l'écrivain doit être du côté de ceux qui subissent l'histoire.
Mmh.
Voilà. C'est ça. Et du coup, forcément, on n'est pas dans le facile. On n'est pas avec tout le monde. Et c'est un chemin qui n'est jamais simple. Camus dit aussi que ses plus grandes universités, ce sont les terrains de football et les planches de théâtre. Parce que c'est là... Parce que
l'esprit d'équipe.
Oui, c'est l'esprit d'équipe. C'était un leader très tôt. Il a créé une compagnie de théâtre, le théâtre par le travail, puis après ça a changé de nom, l'équipe du théâtre, en tout cas le théâtre par le travail.
Oui.
Et il avait une vingtaine d'années, il avait déjà une compagnie. Donc cet esprit de leader, quand à 28 ans, il est rédacteur en chef de combat quand même.
Il est très jeune, il est dans l'esprit d'équipe.
Oui.
Mais alors, c'est vrai, la solitude lui revient en boomerang au moment du prix Nobel.
Ça, c'était la pire
période.
Ouais.
Et sa fille, d'ailleurs, Catherine Camus, vous racontez ça, Mohamed Aissaoui. C'est-à-dire, sa fille le trouve et elle dit « Tu n'es pas heureux, papa ». Enfin,
elle dit
« Non, mais je suis seule ».
Alors, voilà. Effectivement, elle m'a raconté... Mais je me rappelle précisément parce que, justement, ça fait, pour ce dictionnaire amoureux, ça fait partie des choses intimes que je voulais illustrer à un moment fort de la vie de Camus. C'est-à-dire que le prix Nobel aurait dû être le jour le plus beau de sa vie. Camus est effondré parce qu'il est attaqué par Sartre, par d'autres intellectuels et tout. Il se retrouve tout seul à Lourmarin. Et donc Camus me raconte cette scène. Elle a 13 ans, hein, 14 ans. Et elle le voit et elle lui dit « Tu es triste, papa ?» Et lui dit « Non, je suis seule.
Ouais. »
Et là...
C'est très fort. Et on voit la scène en plus.
Oui, on l'imagine. Vous vous rendez compte, c'est quand même la petite fille qui interroge son père. C'est pas l'inverse. Ça aurait dû être l'inverse. C'est le père qui devrait voir sa fille, qui lui dit « Tu es triste, ma fille ?» Et elle qui lui aurait dit « Non, papa, je suis seule. » C'est l'inverse. C'est la petite de 13 ans qui voit son père triste et qui n'arrive pas à cacher sa tristesse. Et alors que c'était le prix Nobel de littérature, quand même.
Voilà. Et en plus, il y a toujours deux faces chez Camus. Hein.
Oui.
Je dirais même, est-ce qu'il était algérois ou algérien, à votre avis, Pascal?
C'est bien, très bonne question à laquelle vous m'embêtez très.
Parce que il parle des deux faces.
Je vais pas esquiver la question. Il était algérois.
Ouais,
alors c'est un Algérien, pur Algérien, parce que il adorait le peuple algérien et le peuple arabe. Je tiens à le souligner. Je dirais, il voyait dans le visage de chacun un visage frère, c'est ce qu'il exprimait. Et que, s'il voyait un Algérien en dehors d'Algérie, il avait un penchant pour lui. Et peu importe ce qu'il pouvait penser, etc. Non, il est algérois. Pourquoi je dis ça? C'est parce que s'il y a une chose avec laquelle je n'étais pas d'accord avec Camus, moi qui suis né dans la région oranaise, c'est qu'il en met plein à la ville d'Oran. Pour lui, c'est une ville où on s'ennuie. C'est une ville où les gens... bref, il dit il dit pique-pan de Oran, et évidemment Alger, c'est la lumière, etc. Et puis il est assez drôle parce que il dit quand vous êtes à Oran, il faut dire du mal d'Alger. Quand vous êtes à Alger, il faut dire du mal de Oran.
Voilà. C'est...
Donc et c'est d'autant plus plus provocateur que la femme de Camus, Francine Faure, était oranaise. Hein.
Donc voilà, il y a un peu ces deux côtés.
Oui. Mais ça a un côté charmant parce que ça donnait des belles pages. Et puis quand Camus décrit les paysages d'Algérie, c'est parmi les plus belles phrases. Hein.
Voilà, exactement. On va faire une pause musicale parce que on parle et on oublie. Il y a la musique aussi.
Alors, là, je ne sais pas si Matou Blounès était d'Oran, d'Alger ou...
Je crois que c'est Oran.
Il était oranais.
Je crois.
Alors, Elle s'arrache la liberté.
Il était kabyle, tout simplement.
Alors, c'est de la musique berbère, mais voilà, je ne sais pas de quelle région d'Algérie. Elle s'arrache la liberté.
يرلهلك ذي يقز يقوم يغلق وعواز ولق نغراو يرلهلك ذي يقز يقوم يغلق وعواز ولق نغراو يرئيس من دق مهرز ميبغليتي تايت حست دقتي الصورة عضريت الدون رئيس ميرارام ويدي تراجون هاد سرشنام عضريت الدون رئيس ميرارام ويدي تراجون هاد سرشنام خاص عطل غرفي تلتسوناتك في الشدام في مرح صيغة دفع قجون في البغي داع وكوزو يقترام في مرح صيغة دفع قجون في البغي داع وكوزو يقترام ذقني وتفكن الهذور لما نسروغ العرور يقمض نصور ذقني وتفكن الهذور لما نسروغ العرور يقمض نصور يتسلقي نغل الهذور لما يسن وقرر داش يسوى دمور وبالغازي كام انزل اسم المور اغي حس مرام ارقص تام الطود وبتغازي كام انزل اسم الموت اغي حس مرام ارقص تام الطود توصل في الحذر يلها نقول ونطن الزود في اللي ماشي بسام ورد اللي يروزي كان يبان غد زهود في اللي ما تجيب السام والشقوار وزكا غيبنا غد سهود
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui, en présence de Mohamed Aissaoui, qui vient nous présenter son dictionnaire amoureux d'Albert Camus. Ça vient paraître aux éditions Plomb. Mohamed Aissaoui, c'est vrai qu'on parle de Camus. Il y a quand même quelque chose qui est un peu triste, même assez triste, je trouve, c'est l'absence de l'œuvre de Camus en Algérie actuellement.
Oui.
Moi, ça m'a carrément choqué d'ailleurs. Hein. Les livres de Camus, comme d'autres œuvres, sont accessibles presque uniquement lors du Salon international du livre d'Alger. Le reste de l'année, c'est rare. En revanche, j'éprouve toujours la tristesse quand je vais à Alger ou à Oran, dans le centre-ville où il a habité. Pas la moindre plaque, le moindre mot faisant allusion à son passage dans ces deux villes. Seul Tipaza lui rend hommage. Donc, comme si c'était un lieu en retrait, finalement, du silence qui
nous
ramenait à la poésie de Camus, parce qu'il y a une poésie.
Ah, il y a une grande poésie, notamment dans ses recueils de nouvelles, Noces, et l'été sont sublimes. Je résiste pas, comment démarre Noces à Tipaza. Au printemps, Tipaza est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil. Et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. À certaines heures, la campagne est noire de soleil, les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleurs qui tremblent au bord des cils. Ah, c'est d'une poésie extraordinaire. C'est dans Nos a Tipaza où dis-je aimer la gloire d'aimer sans mesure. Je l'ai dit tout à l'heure dans ses nouvelles. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en 7 pages, il peut raconter une vie. Mmh. En 7 pages, hein, on peut trouver un personnage. Il y a surtout la grande différence entre les nouvelles et ces autres textes, c'est que dans ces nouvelles sont pleines de lyrisme, complètement en fusion avec la nature. On l'a vu dans les premières phrases là, de Nos a Tipaza. Il y a un ancrage d'une sensualité extraordinaire, juste des mots et on a une image, on a un parfum. On a un décor. C'est pour ça que j'invite, et d'ailleurs j'ai émis le vœu qu'il y ait un volume de toutes les nouvelles de Camus. Il y en a à peu près 41, 42, je ne me rappelle
plus
du nombre.
Bruit,
voilà. Et ce serait magnifique parce que on voit presque Camus tel qu'il est lui-même. C'est-à-dire, évidemment, quand il écrit La Peste ou L'Étranger ou une pièce de théâtre comme Le Malentendu, c'est très travaillé, très dans
soigné,
ça, ouais, très hyper soigné, écrit dans élagué, etc. Dans les nouvelles, il y a presque comme une forme de lâcher prise, et je trouve que d'ailleurs, mine de rien, beaucoup de ces nouvelles sont autobiographiques, que c'est pas le cas évidemment de La Peste ou de L'Étranger, et je trouve que c'est là où il est le plus lui-même.
On peut dire que Camus avait un côté quand même esthète, il y a la notion de beauté.
Oui. Pardon, parce que ça, il faut absolument que je le dise. Pour moi, à force d'avoir travaillé sur les œuvres de Camus, il y a un point que je retrouve tout le temps, qui est aussi bien dans le côté intellectuel, idéologique, si on veut, dans le côté littéraire, dans le côté humain, c'est que chaque fois, Camus, il a eu beau parler, par exemple dans le mythe de Sisyphe, du suicide, de l'absurdité un peu partout, de la mort qui est très présente,
hein, présente
dans ces textes, la mort aussi assez violente, puisque aussi bien dans L'Étranger que dans Les Justes, ça se termine par la peine de mort, par la guillotine. Il a eu beau dire tout cela, et ben chaque fois il y a un mot, une phrase qui exalte la vie, qui exalte la beauté,
comme vous l'avez souligné,
et qui exalte la vie, tout simplement.
D'ailleurs, il dit, la beauté, sans doute, ne fait pas les révolutions, mais un jour vient où les révolutions ont besoin d'elle.
Ouais, c'est
donc
ça,
c'est peut-être ce côté esthète qu'on lui a aussi un peu reproché, qui
oui.
fait que... Et Camus est lié, quand même, à l'été. Vous dites, à un moment donné, c'est dans ce livre que l'on retrouve, enfin, je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil.
Oui, oui,
ça,
oui.
C'est très beau, parce que à mi-distance, voilà.
Oui, oui, oui. Mais parce que il ne cache pas que, évidemment, la misère.
Vous dites, voilà ce qu'il écrit. La misère m'empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire. Le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout. Changer la vie, oui, mais non le monde. comme je faisais, dont je faisais ma divinité.
Oui.
Voilà, au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible.
Oui.
Ça, c'est beau, quoi.
Mais c'est magnifique, et c'est à la fois magnifique sur le plan de l'esthétique, de la poésie, mais aussi, je trouve, sur le plan de l'humain. C'est-à-dire que ça dit une espérance, une foi, ce qu'on veut, un espoir. D'ailleurs, il a dirigé une collection chez Gallimard qui s'appelle L'Espoir, dans collection dans laquelle il y avait René Char, d'autres poètes, et Simone Veil, la philosophe, je crois qu'il a publié presque toutes ses œuvres. Et je me souviens, par exemple, précisément, dans La Peste, la dernière phrase, c'est... Elle dit beaucoup de choses hein, de sa croyance, de sa foi. Elle se termine ainsi. Et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. C'est une force. C'est parce que le mépris est facile. L'admiration un peu plus compliquée.
Donc il y a cette notion-là. Et puis c'est un homme, on l'a dit, il a beaucoup d'activités éditoriales. Alors son premier éditeur, il s'appelait Edmond Charlot.
Hein. Oui, ouais.
Voilà, moi j'ai retenu ça. Il dirige pour Charlot une collection poésie et théâtre. Il rédige des manifestes pour la plupart des collections. Il fonde avec Charlot et leurs amis la revue Rivage, qui n'aura que 2 numéros. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est, et celui qui le remarque sur le plan éditorial aussi, donc il y a Edmond Charlot, et il y a Malraux.
Bien sûr.
Malraux va dire, d'ailleurs, c'est très instructif ce qu'on apprend dans votre livre, Mohamed Assaïoui, parce qu'on voit vraiment ses débuts. Et Malraux repère, il le dit d'emblée, ça sera un grand écrivain.
Tout de suite.
Tout de suite.
La lecture du manuscrit de L'Étranger. Camus ignore où il en est. Hein. Il faut savoir restituer un peu le contexte et la période. On est en pleine guerre. Camus vit en Algérie. Il a envoyé un manuscrit qui traîne je ne sais où. on sait qu'il est un peu chez Gallimard, etc. Il est même en train de travailler ce même manuscrit, essayer de l'améliorer, etc. Et c'est un autre qui va être retenu. Tout de suite, il est remarqué et pas par n'importe qui. D'abord par le comité de lecture de Gallimard, Pollan notamment, et ensuite Malraux qui dit « Attendez, là, on a affaire à un grand écrivain ». Donc, il le met dans sa note de lecture.
Voilà, ce sera un écrivain important, à mon avis.
Oui.
Ça dit tout. C'est génial.
C'est une note de lecture, donc il ne connaît pas l'homme, et il voit juste un manuscrit. Camus ne sait même pas ce que devient ce manuscrit-là. Et après... Et Camus, et il a beau, il a une certaine audace quand même, parce que très vite, donc déjà, on l'a évoqué tout à l'heure, à 20 ans, il a une idée d'une œuvre et pas de publier son premier roman, comme tout être humain, il dit si je publie mon premier roman, je serai déjà content. Lui, il pense déjà
à une globalité,
à une œuvre avec des cycles, et donc il demande à Gallimard si, en publiant L'Étranger, ils ne peuvent pas publier le versant essai de L'Étranger sur l'absurde, donc le mythe de Sisyphe. Et Gallimard accepte. C'est assez incroyable de penser déjà à une œuvre alors qu'il a une vingtaine d'années. Je trouve que c'est une audace, mais qui s'appuie sur un véritable talent.
Et un raisonnement. Parce que, alors, les notes aussi de lecture de Malraux, par exemple, la phrase est trop systématiquement sujet, verbe, complément, point. Par moments, ça tourne au procédé. Très facile à ranger en modifiant parfois la ponctuation. Parce que on lui a reproché cette simplicité. Mais qui est c'est un styliste, Camus.
C'est un styliste, un travailleur aussi. Ça, c'est parce que on peut croire que le talent ne nécessite pas d'approfondissement, etc. Mais on le voit dans ces carnets qui sont un peu le côté accompagnement de son écriture. 4 ans avant de commencer L'Étranger, il écrit « Commencer un roman avec « Aujourd'hui, maman est morte » ou etc. » C'est parce qu'il sait la force de la phrase. Et il dit qu'il la mettra là.
C'est une force de frappe, hein, on pourrait dire.
C'est une grande force de frappe. Hein.
Et puis alors, vous dites, Camus, c'est comme la boîte de Pandore. C'est un trésor pour les citations. quand on fait les citations, vous dites l'écrivain a un tel point, un trésor de citation qu'il faut souvent vérifier telle ou telle oui. parole pour savoir si c'est bien lui qui l'a prononcé, parce que des fois ça peut ne pas être lui.
Et où c'est ça la bonne citation, parce que je peux vous dire que je...
C'est une fabrique de citations.
Oui, je me suis arraché les cheveux que je n'ai pas en essayant de voir quel était le... en plongeant déjà, parce que en fait certaines citations on ne retrouve pas dans les textes. Donc, alors je me dis, est-ce que c'est dans une correspondance, etc. Donc, j'ai cherché, par exemple, « Man nommer les choses », etc. Ben, c'est pas la bonne citation. Et il dit, c'est « mal nommer les objets ». Donc, déjà, c'est moins fort. Mais c'est un homme de citation à tel point. D'ailleurs, là, dans l'heure et demie, là, on l'a beaucoup cité. Mais peut-être que parce que ces phrases ont cette force de la simplicité, c'est qu'elles parlent tout de suite.
Elles impriment.
Elles impriment une invincibilité. Je veux dire, c'est extraordinaire.
Vous avez repéré 5 580 000 occurrences, c'est quand même énorme.
Ouais.
Et puis, alors, il y a des choses comme ça. Alors, l'amitié avec Malraux, elle sera jusqu'à la fin, puisqu'en fait, quand Camus a ce prix Nobel, il va citer Malraux.
Oui, parce que Camus, il est assez incroyable. Il le dit, mais en le pensant, et il le dit à plusieurs fois, tout le temps, il dit, mais c'est pas moi qui aurais dû avoir le Nobel, c'est Malraux. Et il le dit plusieurs fois, c'est presque Malraux qui le rassure, c'est Romain Gary qui lui écrit une très belle...
Il y a une autre, alors ça je vais vous la citer, parce que vraiment, Romain Gary a vraiment le sens de l'amitié.
Oui.
Il y a Malraux, mais vous êtes demeuré au cœur de la souffrance, et lui est allé chercher l'oubli dans la beauté, justement.
Oui.
Vous êtes resté toute votre vie une blessure, et lui a succombé à la tentation des pansements, qu'il écrit P-E-N-S-E-M-E-N-T-S.
Ouais.
Donc, Romain Gary est très sympathique avec lui, il y a une vraie fraternité avec lui.
Oui, une grande. Je pense qu'ils se comprennent aussi. Il y a ce côté, il ne faut pas l'oublier, c'est Gary et Camus, c'est presque deux étrangers français, deux exilés, vrais exilés, et exilés de l'intérieur aussi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y avait cette attirance humaine et intellectuelle entre Gary et Camus.
Alors les amitiés, il y a Brice Parrain, qui est un personnage qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui.
Oui, hélas, un grand linguiste.
C'est bien dommage, parce que Brice Parrain, c'était...
Oui, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il soit dans ce dictionnaire amoureux, parce que il a été quelqu'un de très présent pour Camus, à la fois intellectuellement, humainement, et sur le plan du travail aussi.
Et Jean Daniel, qui a toujours dit, vous avez dit, et sur le plan intellectuel, Jean Daniel a toujours salué en Camus cet art de résister à l'air du temps. Et puis, alors, les femmes, alors là...
On aurait pu faire un dictionnaire amoureux des femmes de Camus.
Alors, il y en a pas... Enfin, en fait, il a eu... il était marié deux fois, c'est ça?
Alors, marié une première fois, effectivement, avec une certaine Simone Yé, mais ça n'a vraiment... il y a une séparation de corps au bout d'un an, et puis... un divorce au bout de 4 ans, si je me souviens bien, 4-6 ans maximum.
Oui.
Il avait 20 ans quand il s'est marié. Et ensuite, la femme de sa vie, moi je tenais à lui rendre hommage dans ce dictionnaire amoureux, parce que bien sûr qu'on parle de Maria Cazares, de Catherine Sellers, des grandes actrices, etc.
Oui.
Mais quand même, c'est Francine Fort. Et c'est avec elle a toujours été là.
Bien sûr.
C'est avec elle qu'il va à Stockholm pour recevoir le prix Nobel de littérature, et il dit elle a toujours été là. Et là aussi, Catherine Camus m'a donné beaucoup de confidences. Ce que sa mère pensait, elle l'a dit, Francine Fort a dit à ses enfants, dont Catherine, elle a dit avec ton père, ça n'a jamais été médiocre.
Oui, elle dit « N'oubliez jamais, je ne regrette rien, avec ton père, ça n'a jamais été médiocre, c'est formidable. »
C'est formidable, et pourtant, elle a souffert. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas souffert, je veux dire, quand Camus était avec Cazares, c'était notoire, il voyageait avec elle, etc. Et Catherine Camus, sa fille, me dit sans doute que sa mère, que Cazares a permis à ce que le couple avec... Francine Fort et Albert Camus durent Après, on peut penser ce qu'on veut, parce que je ne veux pas mettre de morale sur ça. Mais le fait est que c'est quand même Francine Faure qui dit « Je ne regrette rien avec ton père, ça n'a jamais été médiocre. »
Et elle était professeure de mathématiques, pianiste, reconnue et oui. spécialiste de Bach. Donc oui, c'est un peu pour situer quand même
sa
personnalité.
Oui, bien sûr.
Et donc... quand ils se marient, moi j'ai trouvé ça, on apprend ça dans votre
livre.
Ah oui. Pour témoin, deux typographes.
Ah oui, ça vous
qui
parle
ont
ça.
Fait. Ah bah oui.
Oui. Bah,
écoutez,
le contexte d'abord, c'était dans un moment de total dénuement. Hein. Ils n'avaient pas grand-chose et tout ça. Et puis on oublie peut-être que Camus se sentait merveilleusement bien. Au sein de la compagnie des sténographes,
c'est formidable. Enfin,
ouais.
Je trouve que.
Mais c'est incroyable.
C'est l'imprimé qui est là.
C'est l'imprimé qui est là. Et dans le dictionnaire amoureux, c'est un livre qui est malheureusement épuisé à la mort de Camus. Les typographes de combat et d'eau, de tout ça avec qui il a travaillé, ont écrit un livre. Pour saluer Camus et dire à quel point ils étaient heureux avec lui pendant qu'il travaillait, parce que Camus adorait les salles de rédaction comme il adorait les planches et les terrains de foot. Il sentait une fraternité assez exceptionnelle et l'échange, la fusion. Roger Grenier m'en a beaucoup parlé. C'était vraiment quelque chose de très fort.
C'est vraiment très... Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses encore. Alors, les femmes, Maria Cazares, qui rencontre, je crois, le 6 juin
1944, et après 40, c'est
voilà.
Ça.
Bon, il y a des anecdotes aussi. Il a comme la prémonition, on pourrait dire, de son destin, si on peut dire. Bon, c'est une sorte de l'ironie du sort, puisqu'il avait quand même un billet de train quand il a eu ce fameux accident.
Bah, il devait prendre le train, Gallimard...
Il meurt comme un de ses personnages, on pourrait dire.
Bah oui, c'est l'absurdité de la vie, c'est comme ça, il n'y a pas de mort plus noble qu'une autre. Hein. C'est
la scène
ça.
Est vraiment absurde, si on
peut
dire.
Oui.
Et il avait peur de la vitesse, c'est étonnant. Il avait horreur de la vitesse, il me disait toujours, rouler à 80, mon Dieu, c'est suffisant.
Oui.
Dès que je poussais une pointe sur la route, il m'arrêtait en me disant, tu finiras que déjà. Donc il avait peur de la vitesse,
avait peur de la vitesse, il aimait le train, après il aimait aussi son ami... Michel Gallimard,
oui.
Qui lui a dit bah, « Viens, on y va ». Et puis, Michel Gallimard était un peu un jeune fougueux. Les voitures de l'époque n'étaient pas non plus ce qu'il y avait de plus solide. Donc, c'est le destin.
C'est le destin.
Malheureusement.
Et puis alors, l'humour de Camus.
Oui.
L'humour. C'est Catherine Camus, d'ailleurs, qui vous le dit. Il me rappelle que son père appelait Martin Dugard Gratin du Mar.
Du Mar, oui. Oui, bah, y a plein de blagues comme ça. Et puis...
Mais il y a plein de choses dans votre livre. Hein. On fait que de déflorer parce qu'il y a tellement de choses. Je encourage nos auditeurs à vous lire. Mais quelle a été un peu la découverte? Alors, quels sont selon vous, Mohamed Assaïoui, quels sont selon vous les héritiers actuels d'Albert Camus? Moi, j'ai pensé, par exemple, je me suis dit, est-ce que Éric Deluca ne serait pas un héritier spirituel d'Albert
Bien
Camus?
Bien sûr.
Le Clésio, est-ce qu'il le serait un petit peu ou
Bien
pas
sûr, sur le côté sensuel de ses textes.
Solaire,
sur le côté aussi humaniste.
Oui.
Je vois aussi des femmes.
Oui.
Je vois Annie Ernaux, à sa façon. Cette manière de peut-être un peu plus presque brutale, j'allais dire, de parler de la pauvreté, de ce qu'on a appelé le transfuge de classe, etc. Oui, je me dirais Annie Ernaux. C'est étonnant parce que je vois aussi chez Delphine de Vigan un esprit camusien discret mais profond quand même. Cette manière de parler des relations, des fêlures, après.
En poésie peut-être.
En poésie, j'aime beaucoup François Tchang par exemple, parce qu'il exprime aussi ce côté d'exilés et de langue française.
Et la retenue.
Et l'extrême retenue. Et
plus, presque pudeur. Hein,
oui, bien sûr. Et l'exaltation de la nature aussi. Non, mais chez les poètes, effectivement, j'aime bien Vénus Kourigata, par exemple, qui est vraiment Jean Delos, par exemple. C'est vraiment... ça aurait pu être une nouvelle de Camus. Voilà, je pense que beaucoup d'auteurs contemporains, à leur manière, ont pris des choses chez Camus.
Alors, vous parlez aussi, il y a la première lecture de Camus. À un moment donné, vous dites le livre qui a influencé Camus, je ne l'ai plus en tête, mais il y en a eu un qui était...
Eh bien oui, ça s'appelle La douleur.
Voilà.
Pas de Duras, mais...
Et Duras, justement, est-ce qu'elle a eu un côté Camus, tiens?
Ben je pense que tout
l'embarras contre le Pacifique.
Oui, et même l'amant, parce que évidemment beaucoup plus barrage que l'amant, mais c'est surtout dans la sensualité de l'écriture. Chacun évidemment est différent, c'est impossible de comparer un écrivain à un autre, mais je crois que cette fusion avec la nature et l'être, qui est très difficile à exprimer, en plus avec de la poésie, de la beauté et surtout quelque chose qui touche directement au cœur, c'est assez rare et je trouve que j'ai l'impression que tous les auteurs contemporains, d'une manière ou d'une autre, ont puisé chez leurs aînés, je crois, et Camus est un aîné chez lequel on peut vraiment puiser tellement de belles choses. Hein.
Il a aussi donné naissance à l'écriture blanche. Finalement,
oui,
quand on parle de l'écriture blanche, l'expression, on pense à Camus.
On pense à Camus, on pense à l'étranger, évidemment.
Voilà.
On pense un peu moins peut-être à la peste, parce que la peste, c'est moins une écriture blanche. Il commence déjà à avoir quelque chose de moindre retenue, mais l'extrême sécheresse de l'étranger, oui, c'est une écriture blanche. D'apparence, encore une fois, c'est une apparence en permanence et derrière laquelle il y a un travail titanesque de comme l'artiste au travail, hein, pour citer une nouvelle de Camus, Jonas ou l'artiste au travail. Et par ailleurs, peut-être que tous ne le font pas, mais Camus a beaucoup pensé à son propre travail, à quoi sert l'écrivain. Quelle est l'écriture, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a toujours eu en tête et dans son esprit, ça ne l'a jamais quitté, c'est que l'écrivain est toujours du côté de ceux qui subissent l'histoire.
Est-ce que je peux vous poser une question? Qu'est-ce que c'est qu'une écriture blanche?
Une écriture blanche, c'est une apparence de non-écriture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de style. On croit qu'il n'y a pas de style, il n'y a pas d'emphase, etc. Sujet, verbe, complément, par exemple. Quand vous lisez l'étranger, ça, c'est en plus l'utilisation du passé composé, qui est considéré comme un temps pauvre, parce que c'est « je suis allé à la campagne », etc. Et c'est ça qu'on appelle écriture blanche.
Une écriture neutre, en tout cas.
Oui, qui n'a...
Sans emphase.
Oui, il n'y a pas de lyrisme. On a l'impression que tout le monde peut écrire.
Voilà. Mais alors, c'est peut-être pour ça, parce que je dirais qu'il y a la place du silence dans l'œuvre de Camus. Je reviens à la mère de Camus, c'est très important. Toute sa vie, il a cherché à franchir le mur du son, finalement, le mur du silence.
Oui, il y a une nouvelle qui s'appelle Les Muets, qui est formidable. C'est une nouvelle avec un caractère social, en plus.
C'est terrible, sa mère ne pouvait pas le lire, quoi.
Elle ne pouvait pas le lire, elle ne pouvait pas parler non plus. Et en plus, elle était malentendante. On ne sait pas si elle était sourde ou
muette.
Voilà, ou c'est pas très clair, mais... d'après Catherine, elle l'entendait bien, mais elle voulait pas entendre, tout simplement. C'est le monde du silence, en fait. Le silence, c'est aussi parfois ça conduit. Camus l'associe à une forme d'humiliation parce que on n'a pas le droit de parler. C'est ça le silence, c'est la non-expression du monde. Et donc toute sa vie, justement, et l'écriture lui a servi à ça. C'est briser ce silence-là. La nouvelle des muets, c'est des gens qui font une grève, qui ratent leur grève et qui sont obligés de retourner au travail en silence.
Et est-ce que c'est justement ce silence qui est quand même dans la phrase de Camus, qui a eu comme un échec au cinéma? Vous dites, l'œuvre d'Albert Camus n'a pas donné lieu à une grande œuvre cinématographique.
Oui, il y a des écrivains comme ça. On a parlé de Le Clésio.
Oui.
Le Clésio, il n'y a pas, à ma connaissance, eu de grands films sur ses livres. Alors
non.
Que, voilà. Un autre, alors qu'il y a eu un film, Patrick Modiano, où c'est vraiment une œuvre de silence et de presque de chuchotement, quand ça parle fort. Il était scénariste, en plus, Modiano, c'est ce qui est quand même incroyable. Mais il n'y a pas eu de grands films sur ses livres, alors qu'il a écrit des grands livres. Je pense à Dora Brudeur, je pense à Rue des Boutiques Obscures, etc. Il y a des écrivains comme ça dont l'adaptation est compliquée.
Mais on peut dire que Camus est un écrivain visionnaire, puisqu'on l'a relu au moment de la Covid.
C'est incroyable.
Ah, écoutez.
Incroyable. Un livre publié en 47. Je crois.
La peste.
Ouais. 2020, il vous explique comment ça se passe, même sur le plan administratif. C'est quand même assez extraordinaire. Ça prouve que ça n'a pas beaucoup changé, mais surtout dans les relations humaines, etc. C'est extraordinaire qu'une œuvre traverse les époques comme ça et continue de parler aux lecteurs d'aujourd'hui. C'est une puissance inouïe.
Une puissance, et il faut dire que Camus n'était pas non plus dans Manichéen, je trouve. Vous dites, il a eu le courage de la nuance.
Oui, ça c'était important pour moi de le souligner.
C'est important, ça.
Moi, j'aime beaucoup la complexité, parce que je pense qu'elle est inhérente à l'être humain. Il n'y a pas un être humain qui soit simple. Et on nous rabat les oreilles avec les assignations, vous êtes dans quel camp, etc. J'ai écrit un livre sur l'esclavage, et à travers l'histoire d'un esclave qui a assigné son maître en justice. Et ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est la complexité des situations. Cet esclave-là a été défendu par des hommes blancs. La réalité est toujours plus complexe. C'est un courage de constater cette complexité et de porter une nuance à ce qu'on voit. Mais on sait que c'est compliqué. Parce que aujourd'hui, il faut tout de suite penser noir ou blanc, pour ou contre.
Like ou like.
Ouais, voilà, non, mais
j'aime ou j'aime pas.
Ouais.
Mais Camus, c'est vrai que même dans l'étranger, cette nuance est très importante, puisqu'on ne sait pas finalement. On ne sait pas qui. La notion de culpabilité n'est pas là où on en croit. Et on ne sait pas. Et l'humain est fait d'une telle manière.
Bien sûr.
Qu'il y a différents prismes. Voilà.
Oui. Et en rendre compte n'est pas simple.
Même si Camus est un écrivain de plein soleil.
Oui. Mais il a, comme tout être humain, sa complexité.
Et des ombres portées.
Ouais, exactement.
Merci à vous, en tous les cas, Mohamed Nassi. Est-ce qu'il y a un conseil de lecture? On va terminer là-dessus. Un conseil de lecture, il y a des jeunes auditeurs, ou des moins jeunes. Quel est votre conseil? Par où commencer pour, quand on n'a pas trop lu l'œuvre d'Albert Camus?
Si on n'a pas du tout lu Camus, autant commencer par ses classiques. Je pense à L'Étranger ou à La Peste.
Ouais.
L'Étranger, c'est toujours quelque chose qui subjugue, parce que, encore une fois, on a cette impression de simplicité, et puis c'est une force inouïe. Après, pour ceux, parce qu'il y en a heureusement quelques-uns qui ont déjà lu L'Étranger, etc., moi je conseille les nouvelles, notamment Noces et L'Été. Ils sont tous en folio. Et franchement, entrer dans l'œuvre de Camus, c'est juste un bonheur. Voilà.
Et est-ce que votre regard a évolué? Enfin, ce livre vous a encore... votre regard sur Camus, il a encore évolué? Votre regard d'écrivain, comment c'est?
Oui. Les deux, l'homme que je suis admire encore davantage Camus, parce que vous avez parlé de ce courage de la nuance. Je pense qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, le cultiver Et peu importe ce qui se passe, je sais que quand je suis sollicité, c'est toujours est-ce que vous êtes pour, contre, etc. Ça m'agace. J'ai refusé d'aller dans certaines émissions importantes parce qu'on me dit est-ce que vous êtes pro ou contre. Je peux pas agir comme ça. Je veux pouvoir dire quelques mots, je veux pas de buzz, etc. Et quant à l'écrivain, il m'a donné cette force d'aller encore de manière plus profonde dans les choses, de les penser, parce que vous avez cité La Peste, qui quand même, c'est assez incroyable quand on pense qu'il s'est inspiré de Moby Dick, où est le lien? C'est de se rendre un mythe de manière concrète, c'est extrêmement difficile. Je vois aussi ses lectures, pour écrire, il faut lire beaucoup. Et ça, évidemment, je replonge dans les classiques, etc. Et en cela, Camus m'aide beaucoup, oui.
Et puis aussi, le fait, la grande leçon de Camus, c'est qu'un livre peut changer votre vie. La preuve.
Bah oui, 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 tout à fait. Ouais.
La preuve. Vous vivez. Lui, il vivait aussi. Il était à la fois un homme d'action et un homme d'écriture.
Oui,
et de combat.
Je pense qu'écrire est un acte. Hein. C'est pas, on n'écrit pas pour faire beau ou quoi que ce soit. On écrit aussi pour changer les choses, le monde. Après, voilà. C'est. Je garde aussi il m'a aidé à garder la foi, voilà.
Et aussi, ce qui est très important dans ce livre, c'est que c'est un regain de créativité, je dirais, que Camus,
oui.
C'est le tous les possibles. Voilà.
Tous les possibles, exactement.
On peut toujours une sorte d'atelier de l'écriture, d'atelier
oui, permanent.
De langue, permanent.
Mais c'est carnet.
Oui.
Voilà, il a trop volume, je le conseille. En plus, ça se feuillette, hein, on n'est pas obligé de les lire dans la continuité, etc.
Il écrivait debout, en plus, non
Bah, il y avait tous les... Non, il y avait tout le temps, mais ça, en fait, il écrivait partout, c'est surtout ça.
Est-ce qu'il y a encore des inédits de Camus?
Il y a des inédits de Camus, il y a...
Correspondance.
Non, voilà, correspondance notamment avec sa femme, Francine Faure, il en existe une. Il y a la correspondance avec Catherine Sellers,
ah, oui.
Qui n'est pas publiée, mais qu'on peut... qui est déposée à la BNF, je crois. Il y a un projet de publication... voilà, en tout cas pour ce que j'en sais, voilà. Mais ce serait superbe qu'une correspondance soit publiée entre lui et sa femme. Je pense
bien sûr, puisqu'on a eu la fameuse correspondance avec Maria Cazares.
Oui,
donc
oui,
il faudrait qu'il y ait cette correspondance aussi avec sa femme.
Mmh.
Et puis il y a toutes ces compagnons de l'imprimé, j'allais
oui,
dire.
Oui, exactement.
Ces amitiés qu'il a eues.
C'est extraordinaire. Donc, c'était ses amis du livre.
Les amis du livre.
Voilà.
Et c'était important à l'époque.
Oui, bien sûr.
Et on dirait que Camus, c'est un peu l'amitié de la vie, si on pourrait
oui,
dire.
Oui, oui, il y a de ça, c'est vrai.
Merci à vous, Mohamed.
Merci infiniment.
Pour le Dictionnaire amoureux d'Albert Camus, ça vient de paraître aux éditions Plon. Et puis, on peut lire vos autres livres. Donc celui-là, c'est le 7e, mais je vois dans la page, vous savez, du même auteur qui est extrêmement importante. On peut lire Les Funambules, c'est paru chez Gallimard. Comment dit-on humour en arabe? Petit éloge des souvenirs, voilà,
oui.
L'étoile jaune et le croissant, l'affaire de l'esclave Fursi chez Gallimard aussi, et le goût d'Alger. Voilà, merci à vous tous, merci à vous. Alice.
Merci infiniment.
Et puis merci à vous tous, vous pouvez podcaster l'émission sur le site de Radio Libertaire, télécharger l'émission, la réécouter, et puis surtout, ouvrez de bons livres. Et merci à Flo Descailloux de nous avoir accompagnés.
Alors j'ai le droit de... Deux minutes, le choix plutôt, c'est l'invité qui va choisir, entre Saint-Germain-des-Prés par Claude Luther, Passeport pour Paradise, ou alors Slimane Azem, une chanson kabyle, Algérie, mon beau pays. Deux aspects de... Attendez, je remonte.
Ça va de soi.
Deux aspects de Camus, lequel?
Entre Saint-Germain et Algérie, je vais prendre l'Algérie.
Je m'en doutais, hein, mais bon, je voulais demander quand même.
Je vois assez Saint-Germain.
Bon, alors, donc, nous repartons. Algérie, mon beau pays. Slimane Azem.
Thank you. Je me rappelle cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge. J'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tous ceux qui me sont très chers. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. Seul, je me parle à moi-même. J'ai failli à mon devoir. J'ai mené une vie de bohème et vécu dans le cauchemar. Quand je chante ce poème, je retrouve tout mon espoir. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer. Le plat pays qui est le mien,